de ce film d'art pour le père Philippe, à Saint-Joseph, le 20 février 85.
Qu'est-ce qui fait qu'un art ou une œuvre est dite chrétienne? Est-ce qu'une inspiration peut être chrétienne, africaine, grecque, européenne ou musulmane? Quel rapport existe-t-il entre l'inspiration et la culture? J'aurais traité ça normalement un peu plus tard, je veux bien le traiter tout de suite, puisque c'est une question. Parce que je crois qu'il faut d'abord savoir ce que c'est que l'inspiration, pour voir si il y a une possibilité que la foi intervienne sur l'inspiration. Vous comprenez que c'est très différent de parler de l'art chrétien ou de se demander s'il y a une inspiration africaine. Pas du même ordre. La culture africaine, la culture grecque, la culture européenne ou la culture musulmane représentent des cultures. La foi représente une lumière qui vient d'en haut. C'est donc tout autre. Est-ce que l'homme est différent dans une culture africaine, grecque, musulmane et chrétienne? Est-ce que l'intelligence humaine est différente dans une culture africaine, grecque, européenne et musulmane? C'est ça toute la question, vous comprenez? Alors évidemment, si je suis dans un point de vue sociologique, je ne vois que le point de vue sociologique, c'est-à-dire le conditionnement de l'être humain. Et je dirais qu'il y a un autre homme africain, européen, musulman, et dans l'européen, le Moyen-Âge, et actuellement. Ça a été la terrible inquiétude de Nietzsche. Il en a perdu la tête. Il en est devenu fou. Parce que pour lui, l'Europe était chrétienne et il voit qu'elle n'est plus chrétienne. Et dans sa perspective à lui, on ne pouvait pas être vraiment pleinement soi-même si on n'entrait pas dans ce point de vue d'une certaine option. Je crois que le problème est très très profond. On le touche par l'inspiration, on pourrait le toucher par la métaphysique, mais vous comprenez que l'inspiration est beaucoup plus liée à toute une culture, à toute la sensibilité, à tout un milieu. C'est pour ça que je peux me poser la question, y a-t-il une inspiration africaine? Y a-t-il une inspiration européenne? Y a-t-il une inspiration musulmane? Je peux me poser la question. Y a-t-il une inspiration chrétienne? Ce n'est plus du même ordre alors. D'un côté, je vois le point de vue de la culture, le milieu dans lequel je suis, et ce milieu me donne des expériences différentes. Vivre en Afrique, vivre à Saint-Jodard, ce n'est pas le même type d'expérience, hein, je crois. Vivre dans un milieu musulman ou vivre au Moyen-Âge, ce n'est pas non plus les mêmes types d'expériences. Or, notre expérience esthétique dépend du milieu dans lequel on est. Ça, c'est bien évident. Mais l'inspiration n'est pas l'expérience. Et c'est ça qui fait la très grosse différence. Vous voyez, là, on touche là quelque chose qui est très important, parce que c'est important de bien saisir la différence entre l'expérience et l'inspiration. Qu'il y ait une certaine continuité. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que les artistes ont besoin d'une culture, ont besoin d'un milieu dans laquelle leur inspiration pourra naître. Ça, c'est sûr. ils sont beaucoup plus dépendants de la culture que la métaphysique. La métaphysique, j'allais dire, une fois qu'on l'a découvert, on est au fond très indépendant du milieu. Je me souviens, c'était à la fin de la guerre, au moment de la démobilisation, j'étais à Toulouse. Et je voyais là le bon père Delos, que j'aimais beaucoup. Le père Delos était un grand spécialiste du droit international. Alors il me voit travailler à la bibliothèque, paisiblement, parce que dans la bibliothèque de Toulouse et dominicain, il y a des très beaux. Il y a des tas de livres que je n'avais pas au solchoir, et donc je m'étais précipité dessus pour essayer d'étudier et de regarder ces livres qui représentaient tout un aspect du thomisme. Et je vois mon cher père Delos qui me regarde, il dit « Ah, vous avez bien de la chance, vous. Votre objet demeure. Le mien, il a disparu. » Et c'est vrai, quand on est spécialiste du droit international, après la secousse de la guerre, ça présentait quelque chose. Il fallait tout reprendre d'une autre manière. La métaphysique ou la théologie spéculative, scientifique de saint Thomas, on est libre par rapport au milieu dans lequel on est. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent au milieu. Non, non, pas du tout. Il y a des milieux dans lesquels on peut plus facilement spéculer que d'autres. Il y a des milieux dans lesquels on peut plus facilement faire de la métaphysique que d'autres milieux. Ça, c'est bien évident. Mais on est quand même beaucoup plus libre. L'artiste est très dépendant de son milieu. Mais cependant, alors c'est là où j'en arrive, cependant, l'inspiration est au-delà du milieu. Et l'inspiration reprend l'aspect profond de la nature humaine comme nature humaine, avec des petites modalités. Mais la grande inspiration, c'est pour ça que tous les grands artistes se retrouvent. Qu'ils soient de l'Asie, qu'ils soient de l'Inde, qu'ils soient de l'Afrique, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, ils se retrouvent. Et ils parlent le même langage. Les grands, pas les petits. Mais les grands. Parce que les grands sont libres par rapport à tout un milieu donné. Alors évidemment, on est plus ou moins grand, c'est toujours très difficile de voir ça. Mais quand on a fréquenté des grands artistes, on voit cette liberté. Je vous ai toujours dit, la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Le loup, c'est l'artiste. Le chien, c'est le fonctionnaire. Pas la même chose. Alors il est sûr d'avoir la nourriture en temps opportun, tandis que l'artiste ne le sait jamais. Alors il est libre. Un grand artiste est libre. C'est ce qui frappe le plus dans l'attitude d'un grand artiste. Il est libre. Oui, c'est pour ça que quand on les voit, on voit chez eux quelque chose qui touche à l'homme. Mais alors, c'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse dire, comprenez bien, qu'on puisse dire qu'il y ait une inspiration typiquement africaine. Je dirais, il y a une inspiration poétique, qui a une modalité africaine, qui a une modalité musulmane, qui a une modalité européenne, avant la guerre ou après la guerre. Des modalités, mais pas spécifiquement. Tandis que je crois qu'il y a une inspiration typiquement chrétienne. Ça, il faudra le voir. Et c'est la grandeur de la foi chrétienne de pouvoir transformer du dedans une inspiration. Et seule la foi, la vertu de religion ne fait pas ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'inspiration musulmane au sens fort. Parce que c'est plus un aspect religieux qu'un aspect de foi. On On peut discuter, hein, mais je crois que c'est plus un aspect religieux. Et c'est, l'aspect religieux ne donne pas une inspiration nouvelle. Tandis que la foi chrétienne donne une inspiration nouvelle. Et c'est là où il faut bien saisir la différence entre le point de vue de la culture qui nous met en face du conditionnement dans lequel on est. Parce qu'on est dans un conditionnement, alors ça modifie, mais l'inspiration est au-delà du conditionnement. Une véritable inspiration, c'est typiquement humain. Et c'est pour ça que dans le grand art classique, on cherchera toujours à retrouver quelque chose qui est l'homme, exprimé à la manière de l'artiste. Hein. C'est l'homme. L'artiste aussi est toujours épris de l'homme et de l'humain. Et il recherchera ce qu'il y a typiquement humain. Mais avec un conditionnement particulier. Un conditionnement spécial, c'est évident. L'expression africaine n'est pas tout à fait la même que l'expression européenne. Bien qu'aujourd'hui, hein, l'Europe pille l'Afrique et l'Afrique pille l'Europe. Hein, c'est un flux, un reflux. Parce que l'Europe trouve une originalité dans l'Afrique et l'Afrique trouve une originalité dans l'Europe. Alors on se serre comme ça et on se pille comme ça. Et on peut, c'est évident, on peut venir piller à droite ou à gauche au point de vue culture. Mais l'inspiration elle-même, si on essaie de comprendre ce que c'est que l'inspiration, elle est au-delà de ce milieu de culture et de ce milieu du conditionnement. Et alors, ça, il faut y réfléchir, hein. Pour essayer de comprendre. On verra ce que c'est que l'inspiration chrétienne. Parce que ça, j'y tiens beaucoup. Je crois que c'est très important. Ce que c'est que l'inspiration chrétienne. Que de voir se poser la question, hein, y a-t-il une inspiration chrétienne? Il n'y a pas d'inspiration religieuse. C'est curieux. D'une certaine manière. Hein, d'une certaine manière. Parce qu'on pourrait dire... Il y a une certaine inspiration religieuse par le point de vue de la création. C'est très délicat. Tandis qu'une inspiration chrétienne, oui. Vous voyez, l'inspiration sacrée. Oui. Tout grand art est sacré. Et donc, par le sacré, il rejoint le religieux. Tandis que l'inspiration chrétienne est d'une autre nature. C'est autre chose. Alors, continuons si vous voulez, parce que je ne peux pas donner de réponse immédiate maintenant, sans avoir essayé de voir ensemble ce qu'est l'inspiration. Et c'est important. L'inspiration porte sur le possible. C'est très, très important de comprendre ça. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore, qui n'existe pas encore. Sur quelque chose qui est un projet, une idée. C'est l'idée qui se noue en nous. Une idée plus ou moins précise, plus ou moins vague, un projet, quelque chose. C'est le contenu de l'inspiration, c'est toujours quelque chose de possible. Quelque chose qui peut se réaliser. Quelque chose que je peux réaliser. Si c'est le possible, qu'est-ce qui détermine ce possible ? Ce n'est pas un objet extérieur qui existe, c'est l'homme lui-même, dans son intelligence liée à l'imagination. C'est l'homme, dans son intelligence liée à l'imaginaire. Et par l'imaginaire lié au sensible, hein, parce que l'imaginaire c'est le sensible. C'est en ce sens-là que, quand Bergson parle de l'imagination créatrice, on voit très bien ce qu'il veut dire. Parce que le possible proprement de l'inspiration, n'est pas un possible abstrait. Vous voyez, entre parenthèses, hein, un tout petit peu de critique pour que vous compreniez mieux. Mais le possible au niveau logique, mais le possible au niveau métaphysique, mais le possible au niveau artistique. Le possible artistique, c'est le possible que l'inspiration saisit et dont l'inspiration est source. Il y a quelque chose qui apparaît, ce possible, qui est l'idéal, qui est le projet. Alors, ce n'est pas le possible logique, ce n'est pas le possible mathématique. Parce que les mathématiques aussi regardent le possible. Les sciences regardent une hypothèse. Une hypothèse, c'est du possible. Une hypothèse, c'est possible que ça existe. C'est quelque chose de possible. C'est quelque chose qui a son intelligibilité en soi. On peut dire que c'est ça le possible. Quelque chose qui a une intelligibilité en soi, mais qui n'existe pas encore. Alors, le possible mathématique demeure un pur possible formel. On ne cherche pas à savoir si ça existe ou ça n'existe pas. Ça n'a pas d'importance. Un pur mathématicien, lui demander si ça existe ou ça n'existe pas, il vous rit au nez. Parce que ça prouve que vous n'avez rien compris aux mathématiques. Le possible mathématique, on ne se pose pas la question de savoir si ça existe ou ça n'existe pas. C'est beau, c'est harmonieux, c'est une épure extraordinaire, merveilleuse. C'est tout. C'est du reste merveilleux. C'est beau. C'est la beauté, c'est l'ordre qui est impliqué dedans. Mais pas la question. Il n'y a pas de référence. Aucune référence à l'essai. À l'exister. Aucune référence. La question, c'est de savoir dans quelle mesure le possible mathématique a un fondement dans le réel. Ça, c'est autre chose. C'est une autre question. Que le possible mathématique a un fondement dans le réel, toujours. Mais alors avec des coups de son très différentes. Hein. C'est souvent très lointain, dans la mesure même où il est formalisé. Plus il est formalisé, plus il est mathématique, plus il est loin de son fondement. Et plus il s'impose à la connaissance mathématique. Je me souviens des grandes discussions qu'il y avait avec le père Gérard Deslauriers, qui, comme mathématicien, était remarquable. Et le père Gérard Deslauriers a écrit un article, pour ceux qui s'intéressent à ça, il a écrit un article sur l'être mathématique, qui est apparu dans la revue du Solchoir, revue des sciences philosophiques et théologiques, il y a 30 ans. Et c'était un article très pensé. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique? Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que l'être mathématique. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucune référence avec l'exister. Ça, on ne peut pas dire que c'est une essence. Non, au fond, c'est une relation. Je ne dis pas une relation de raison. C'est une relation. Parce que le possible mathématique n'est pas le possible logique. Et les grands mathématiciens sont outrés de cela. Quand ils voient qu'on ramène les mathématiques à la logique, ils sont furieux. Parce qu'en mathématiques, il y a des intuitions, au-delà de la logique. Ce sont des intuitifs, les mathématiciens. Les grands mathématiciens sont des intuitifs. Ils saisissent des relations tonnantes. Le possible logique, c'est l'universel et l'être de raison. Alors, le possible logique, il a un fondement dans la réalité. Alors là, oui. Tout de suite, immédiatement. Un possible logique a toujours son fondement dans la réalité. Évidemment, quand on passe de... Je parle ici de la logique classique. Parce que si on parle de la logique mathématique, ce qu'on appelle la logistique d'aujourd'hui, alors à ce moment-là, c'est l'attraction mathématique qui l'emporte par rapport à la réalité. Alors on est devant un possible nouveau d'un type particulier. Et donc à l'intérieur de la logique, il y aurait deux types de logiques différents, c'est-à-dire deux types de possibles différents, deux types d'universels différents, qui est le point de vue de l'être de raison. Tous les deux sont des êtres de raison. C'est-à-dire qu'ils n'existent que dans l'intelligence. L'être mathématique aussi n'existe que dans l'intelligence, donc d'une certaine manière c'est aussi un être de raison. Mais la différence de l'être de raison logique classique, type aristotélicienne, qui commande toutes les autres logiques du reste. Hein. C'est la première logique, si vous voulez. La logique mathématique est beaucoup plus d'un type de logique stoïcienne. Et la logique stoïcienne est beaucoup plus proche de la logique mathématique. Ça c'est des considérations différentes, mais qui sont intéressantes, parce que dès qu'on est dans le possible, il faut réfléchir sur le possible. Il faut voir toute la philosophie du possible, ça vaut la peine. Et c'est intéressant de voir que le possible, on le retrouve tout le temps sous des modalités différentes, sous des modes différents. Alors, vous avez le possible métaphysique. L'être possible. L'être en puissance. C'est l'être possible, l'être en puissance. C'est l'essence. Qui regarde l'essai. C'est la capacité d'exister. C'est l'essence, une capacité d'exister. C'est ça le possible métaphysique. Donc, je précise à partir de là. Il n'a pas en lui-même, il est tout entier relatif à l'essai, tout entier relatif à l'exister. C'est une capacité d'exister. L'idéa artistique. C'est un possible qui peut se réaliser dans une œuvre. L'œuvre, ce n'est pas l'exister pur. Hein. L'œuvre, c'est autre chose. Ça implique, ça présuppose une matière. Alors, ce n'est pas l'actuation de la matière. Hein. Faisons attention. C'est autre chose. La forme artistique est éduite de la matière, comme on dit. Elle provient, elle s'enracine dans la matière. Une véritable œuvre d'art, il y a un lien très très fort entre forme, l'idéa, et la matière. Quand il y a une espèce de hiatus entre les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors à ce moment-là, on voit très bien, c'est du rajouté, c'est quelque chose qui vient au-dessus, c'est du repeint, c'est quelque chose, une couche par-dessus. Ce n'est pas ça du tout la matière par rapport à l'œuvre. La matière est présente dans l'œuvre et l'idéa est éduite de la matière. Il y a une coopération qui se fait entre l'idéa et la matière pour faire une unité dans l'œuvre. Alors là, vous êtes en face donc un possible nouveau. Alors, je crois que c'est bon, vous voyez. Ça, c'est une question de signification. Donc, c'est une question critique. Vous réfléchissez sur les différents possibles. C'est très intéressant de voir ça. Le possible s'oppose au nécessaire. Qui dit nécessaire dit quelque chose qui est au-delà du possible. Alors, c'est intéressant de voir parallèlement au possible tous les nécessaires. Il y a différents types de nécessités. Ce qui est terrible, vous voyez, c'est toujours le même mot. C'est toujours le même mot qu'on emploie pour délivrer. Et on comprend pourquoi c'est le même mot, parce qu'il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose de commun, mais il y a des modalités différentes. Il y a quelque chose de commun à travers tous ces possibles. À travers ces 1, 2, 3, 4. Ces 4, mais il y en a d'autres. Hein. Je pourrais en nommer d'autres. Je nomme les principaux, là. Parce qu'il y en a des quantités possibles, comme modalités possibles. Parallèlement à ces possibles, vous avez le nécessaire. En mathématiques, il y a une nécessité. Mais où apparaît la nécessité dans le possible en mathématiques? Il y a une science mathématique. S'il y a une science mathématique, il y a du nécessaire. Le possible engendre du nécessaire en mathématiques. C'est extraordinaire. Fabuleuse. Et c'est la séduction des mathématiques. Quoi. Si on est un peu mathématicien, on comprend ça tout de suite. Il n'y a rien de plus séduisant que de voir que du possible va jaillir du nécessaire. Et vous allez être pris par ça. Et c'est vrai que la science mathématique nous montre le nécessaire. Le nécessaire apparaît lui aussi dans la relation. Alors, il y a la relation première qui est comme une matière sur laquelle, de fait, il va pouvoir y avoir ce nécessaire qui va naître. Et qu'est-ce qui va faire apparaître le nécessaire? C'est l'intelligence du mathématicien. C'est l'intelligence du mathématicien qui va permettre de voir cette naissance du nécessaire. Ça, c'est pas le possible. Hein. C'est pas le possible. C'est pas l'être mathématique. Mais c'est la manière dont le mathématicien se sert de l'être mathématique dans différentes jonctions pour faire apparaître à partir de là quelque chose de nécessaire. Vous avez le nécessaire en logique aussi. La logique est une science. La logique est à la fois une science et un art, comme disent les anciens. Saint Thomas dit que la logique, c'est l'art des arts. C'est quelque chose de très très puissant. C'est l'art des arts, la logique. Mais c'est aussi une science. Et donc il y a du nécessaire. Le logicien cherche le nécessaire à partir du possible. Lui aussi, crieux, cette maladie de trouver du nécessaire. On part du possible et on cherche toujours le nécessaire. Tout le temps. Dans n'importe quelle argumentation que vous faites, vous cherchez du nécessaire. L'être en métaphysique. Ah, en métaphysique aussi, on cherche le nécessaire. Mais un nécessaire objectif. L'être en acte. L'être en acte, c'est le nécessaire métaphysique. Et l'être en acte, il ne vient pas de l'intelligence humaine. En dernier lieu, il vient de Dieu. L'être en acte, c'est le si. Et je suis incapable de créer l'essai, de faire l'essai. C'est Dieu qui communique l'essai. Vous voyez la différence avec le point de vue de la logique et des mathématiques? Le nécessaire jaillit du possible mathématique et du possible logique, alors que le nécessaire en métaphysique vient de l'extérieur. Il s'impose à moi. Quand je suis en face d'une réalité qui existe en acte, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Et dans l'artiste, l'artiste aussi, et ça fait partie de son inspiration. Ça fait partie de son choix créateur. C'est ce qui suit immédiatement après l'inspiration. L'inspiration se noue dans un choix créateur. Le premier moment de l'inspiration, c'est un moment très ouvert. Puis tout d'un coup, ça se noue. Il y a quelque chose qui s'impose. Et c'est plus fort que tout. Et l'artiste le dira. Il ne peut pas faire autrement. Vous lui demanderez des explications. Vous lui direz pourquoi vous avez fait ça. J'en sais rien. Oui, je vous donnerai une explication, parce qu'il sera gentil. Mais il n'en sait rien. Ça s'est imposé à lui. Vous voyez, c'est la même chose. De l'idéal, le possible, va jaillir du nécessaire. Alors vous avez le choix créateur et je crois que ce nécessaire formera l'idéal. C'est pour ça que l'idéal est plutôt ici. Et c'est une idée force, c'est quelque chose qui me dirige, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Mais c'est quelque chose qui est de l'intérieur aussi, pas de l'extérieur. C'est très curieux, vous voyez, ces trois possibles qui ont quelque chose de semblable. Le possible mathématique, le possible logique, le possible de l'artiste. Et le possible du métaphysicien est tout à fait différent. Vous le voyez par rapport au nécessaire. Hein? C'est par rapport au nécessaire qu'on voit ça tout de suite. Parce que possible et nécessaire se tiennent, ça c'est évident, les deux se tiennent. Et alors on voit d'un côté le nécessaire qui naît à partir du possible, et de l'autre côté le nécessaire qui s'impose directement venant de l'extérieur. Ça, je crois que c'est très très important. Il faut y réfléchir longuement. Ça fait partie de certains de ces sujets sur lesquels on doit revenir constamment, parce que c'est quand même très très important. C'est tout un aspect de la critique qui est capital, ça. Le point de vue du possible, le point de vue du nécessaire. Au niveau de notre cogitation, qu'est-ce que c'est que le nécessaire? quand cette chose s'impose à vous. Alors vous voyez, la subjectivité transcendantale dont parle Kant, la subjectivité transcendantale, c'est lorsque, justement, l'intelligence est capable de se donner à elle-même sa propre détermination. C'est ça la subjectivité transcendantale. C'est lorsque l'intelligence se donne à elle-même ses propres déterminations. L'intelligence possède en elle-même ses déterminations qui viennent d'elle et non pas de l'objet, et non pas de la réalité extérieure. Alors, où la subjectivité transcendantale est-elle la plus transcendantale? C'est-à-dire, où est-elle la plus subjectivité transcendantale? Dans les mathématiques, dans la logique, et chez l'artiste. Puisque des trois côtés, le possible devient nécessaire dans l'immanence du possible. Quand le possible devient nécessaire par l'extérieur, il n'y a pas de problème. En métaphysique, il n'y a pas de problème. La métaphysique ne peut pas accepter la subjectivité transcendantale. Ce serait la négation de l'être. Ce serait la négation de ce qui est. Prius cadit in intellectus ens. L'humilité fondamentale de l'intelligence, c'est d'accepter que la première détermination qu'elle a vient de la réalité extérieure à elle. L'intelligence est mendiante de toutes ces déterminations. Elle tabula rasa. Tabula rasa, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Rien n'est écrit dessus. Et alors, toutes les déterminations viennent de la réalité, viennent de l'être. C'est pour ça qu'on peut dire, primo cadit in intellectus ens, la première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est ce qui est. Et c'est la réalité qui détermine l'intelligence. Là, c'est juste l'opposé à la subjectivité transcendantale. Juste l'opposé. Dans la subjectivité transcendantale, c'est pas l'ens qui primo cadit in intellectus. C'est intellectus. C'est l'intelligence qui elle-même se détermine. C'est l'intelligence qui elle-même découvre ses déterminations. Donc qui détermine les idées innées, les formes a priori, ça prendra des aspects différents, mais c'est l'intelligence qui se découvre elle-même comme fondamentalement déterminée. Et elle regarde la réalité en ramenant la réalité à ses propres déterminations. Alors, il est évident que la pensée métaphysique, c'est juste l'inverse que la subjectivité transcendantale. Tandis que la subjectivité transcendantale se comprend selon ces trois modalités. Il y a comme trois modalités de la subjectivité transcendantale. La logique, le point de vue mathématique et le point de vue artistique. C'est très curieux que les trois se tiennent pour montrer le primat du sujet par rapport à ses déterminations. Mais faisons attention, hein, quand je dis ça, il faut faire attention. C'est de trois manières très différentes. C'est de trois manières très différentes. La subjectivité transcendantale n'est parfaitement subjectivité transcendantale que chez l'artiste. Elle l'est moins chez le métaphysicien que dans la logique. Pourquoi? Ça va nous aider à comprendre justement le caractère tout à fait propre du possible de l'artiste. Pourquoi la subjectivité transcendantale? Je prends ça exprès ce terme, puisque Kant, il faut connaître un peu, ça fait partie des grands classiques. Il faut donc connaître un tout petit peu Kant et savoir où Kant a quelque chose de juste. Donc quand Kant parle de la subjectivité transcendantale, il faut voir où il y a quelque chose de juste. Là où ce n'est plus juste, mais là où il y a quelque chose de juste. Et c'est intéressant de voir que la subjectivité transcendantale ne se réalise parfaitement que dans l'inspiration. Il faut croire que Kant est un être très inspiré. Mais il a fait une confusion, c'est qu'il a confondu l'intelligence de l'artiste et l'intelligence tout court. C'est la grande erreur. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit justement du possible artistique, c'est là où la subjectivité transcendantale est la plus nette? Parce que le fondement par rapport au réel est plus proche en logique que dans l'inspiration artistique. Le fondement par rapport au réel est plus proche en mathématiques que dans l'inspiration artistique. C'est donc par rapport à l'inspiration artistique que le sujet qui est inspiré est le plus lui-même dans son inspiration. Autrement dit, le fondement par rapport au réel. Voilà. Je vous ai dit, il y a un fondement réel. Il y a trois fondements réels. Alors, il y a le fondement de l'artiste, le fondement logique et le fondement mathématique. Trois fondements. Il y a le fondement réel, c'est le passage de l'expérience artistique, donc du milieu dans lequel je suis, avec l'inspiration. Il y a, entre les deux, il y a une discontinuité. Nous avons vu ça à propos de l'inspiration. Il y a une discontinuité. Tous les artistes qui parlent de l'inspiration parlent d'une discontinuité par rapport à l'expérience. Donc, il n'y a pas de continuité dans l'ordre de la détermination. La détermination jaillit de l'intérieur. Elle ne provient pas de l'expérience artistique. L'expérience artistique antérieure représente ce milieu à partir duquel l'inspiration va apparaître. Mais l'expérience artistique ne détermine pas l'inspiration. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il y a une inspiration africaine, européenne, musulmane, grecque. L'expérience est différente, c'est sûr. La philosophie grecque est née d'une expérience différente que mon expérience. Et la philosophie africaine naît d'une autre expérience que la mienne. L'expérience de la forêt équatoriale, c'est quelque chose de particulier, chose de spécial. Ce n'est pas l'expérience des autoroutes. Non, non. C'est différent. Et ça suscite des quantités de choses différentes. Donc l'expérience artistique, le milieu dans lequel on est, a ses propres déterminations. Cette détermination, quelle est-il ? C'est cette expérience artistique qui nous fait venir les qualités. L'inspiration, elle, il n'y a pas de continuité formelle entre les deux. Il y a quelque chose de nouveau. Autrement, il n'y a pas d'inspiration. Mais quand je fais une copie, là, il y a une continuité. Il y a des gens qui qui sans aucune inspiration, on le sait, ils copient admirablement. Oui, ils sont extraordinaires. Vous pouvez regarder ça à la loupe, merveille. Si vous regardez bien, avec un peu plus de distance que la loupe, vous voyez que c'est tout à fait différent. La copie, c'est la copie. Même quand elle est à s'y tromper, comme on dit, à tromper des gens érudits, vous ne tromperez pas l'artiste. C'est curieux, ça. La copie est en continuité. L'inspiration n'est pas en continuité. Il y a autre chose. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a le quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, d'inédit, qui est propre à l'inspiration. Il y a une rupture entre l'expérience artistique et l'inspiration. Une rupture. Quand il s'agit de la logique se fonde dans la réalité. Alors, c'est vrai que la logique, elle, l'être de raison, ne puise pas ses déterminations à partir de la réalité, mais la logique est tout entière au service d'une connaissance objective. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une continuité. La logique, dans son être de raison, dans le point de vue universel, dans le point de vue du prédicat, c'est beaucoup plus des fonctions d'intelligence qu'on voit, qui sont utilisées en vue d'une connaissance objective. Quand il s'agit des mathématiques, le fondement par rapport au réel existe plus ou moins proche, ou plus ou moins éloigné. Il y a un fondement encore dans le réel. Donc il y a une continuité. La formalisation de l'abstraction mathématique ne brise pas la continuité, mais lui donne un être tout à fait différent, une lumière totalement différente. C'est une lumière totalement différente qui formalise et qui donne à la réalité une formalité toute différente. Donc vous voyez, c'est bien du côté de l'inspiration poétique que la subjectivité transcendantale, pour employer le langage de Kant, est la mieux réalisée. L'artiste, c'est l'homme le plus original au point de vue de sa connaissance subjective. Et sa connaissance subjective, quand je dis connaissance subjective, comprenez bien, ça veut, c'est que ça provient de son intelligence liée à l'imaginaire. Ça provient de sa propre intelligence. C'est lui qui est source de ses déterminations. Et source de ses déterminations dans un jaillissement. Ce n'est pas le fruit d'un travail. Le travail est antérieur. Il faut du travail. L'inspiration ne favorise jamais l'oisiveté. L'inspiration favorise le travail. On le sait. Mais l'inspiration dépasse quelque chose qui est d'un autre ordre et qui met l'artiste au-delà de son milieu, au-delà du travail, qui le met dans un climat autre. Et c'est ce climat de l'inspiration, ce possible dans l'ordre artistique. Donc c'est là où la subjectivité transcendantale est la plus nette. C'est donc là où le possible, d'une certaine manière, j'allais dire, est le plus possible. C'est-à-dire que c'est là où le possible est le plus intelligible. Puisque d'une certaine manière, l'idéa va devenir mesure de l'œuvre. Alors vous voyez cette chose inouïe, hein, c'est extraordinaire ça. D'habitude c'est la réalité existante qui mesure l'intelligence. Eh bien dans l'inspiration artistique, si vraiment vous êtes inspiré, dans l'inspiration artistique qui a comme fruit l'idéa, l'idéa devient la mesure de l'œuvre. Si l'idéa est la mesure de l'œuvre, l'idéa donc, qui est une réalité possible, dépasse la réalité existante de l'œuvre. Et c'est peut-être cela qui montre ce que représente ce possible artistique dans sa qualité la plus éminente. Et qui montre comment le sujet est capable de réaliser quelque chose de nouveau. Dans les mathématiques, vous voyez, dans les mathématiques, il y aura bien quelque chose de nouveau. Il y aura bien du nouveau qu'on recherche indéfiniment. Mais jamais les mathématiques ne mesureront le réel. On le fera. On en fera des applications, c'est évident. Mais jusqu'au moment où ça saute. Jusqu'au moment où le réel étant dompté par les mathématiques, va ruer, ruade de l'âne. C'est très curieux, ça. Parce que le réel a quelque chose qui refuse d'être entièrement formalisé par les mathématiques. Il ne peut pas être entièrement formalisé. Il a autre chose, il a l'essai. Et donc les mathématiques ne mesurent pas l'existence. Tandis que l'idéa mesure l'œuvre existante. L'essai de l'œuvre. Et ça, c'est très curieux, vous voyez, parce qu'alors là, on pourrait dire que d'une certaine manière, tout ce que nous disons en métaphysique est inversé. Et c'est ça qui est intéressant dans la connaissance artistique. C'est que tout ce que nous disons en métaphysique est inversé. Nous disons prima de l'acte sur la puissance. Prima de la puissance sur l'acte. Prima du possible. Alors nous ne disons pas la puissance, disons du prima du possible artistique sur l'œuvre. Et l'œuvre, c'est la réalité existante. Oui, donc essayez de réfléchir là-dessus. Hein, parce que c'est important pour saisir toute une manière de penser. Et c'est important de saisir que cette manière de penser, elle est très profondément inscrite en nous. Nous sommes premièrement artistes avant d'être métaphysiciens. Il ne faut pas l'oublier. On est premièrement artistes. Ou on ne l'est pas du tout, alors c'est autre chose. N'est-ce pas ? Mais autrement, normalement, l'artiste, il naît avant le métaphysicien. L'artiste, l'artisan, si vous voulez, parce qu'il y a des artistes artisans, il est avant métaphysicien. Et c'est parce que, justement, l'artiste est très proche du conditionnement humain qu'on peut dire que la connaissance artistique poétique fait ce mélange entre le conditionnement et la finalité. C'est ça qui est tout à fait propre à l'art. Et qui est justement si différent de la pensée métaphysique. Alors, un véritable métaphysicien doit aimer ce propre de la connaissance mathématique, ce propre de la connaissance artistique, parce que c'est l'autre extrême. C'est les deux extrêmes de la connaissance humaine. La métaphysique.